et bienvenue. Nous sommes le samedi 30 mai 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu en direct des fouilles archéologiques et de la lutte contre les nazis communistes.
Et suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires, de l'infirmerie et des prétoires.
Et ensuite...
Eh ben à 15h c'est du reggae avec Zarma Farai, 17h découverte musicale avec Ça c'est la bonne viande, 18h du rock avec Big Bang, 19h le cocktail avec Happy Hour, 20h la CTO Experience, 21h39 Love et à 23h live avec le potager. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Je suis dépité, j'ai oublié mon galure chez moi, il était prêt.
Ah,
il était prêt, nickel et tout, le Stetson, j'ai même répété une scène de fouet, il y avait tout ce qu'il fallait.
Avec qui tu l'as répété?
Dehors.
Ah, d'accord, avec les chats.
Ouais, mais tu sais, c'est très très dur à dresser un félin. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il arrête un félin avec un fouet, il le retarde juste au début du 3. Non?
Non, il n'y a pas. Si, oui, tout à fait. Oui.
Mamaka. Non, c'est The Equals, excusez-moi. Baby Come Back. Toujours dans la prog mai 68. Baby Come Back. Baby Come Back. Baby Come Back. This is the first time. That you have run away. I'm asking you for the first time. Love me enough and stay alright. Hey, alright. Hey, alright. Hey, yeah. Come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. There ain't no use in you crying, 'cause I'm more hurt than you, yeah. I shouldn't have been a flirting, but now my love is a true, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, on n'a plus l'habitude des morceaux aussi courts. Hein.
Oh, on peut même plus se reposer en direct. Hein.
Ouais, c'est une horreur. Bon, alors qui c'est qui revient? Les dents de la mer.
Yann Solo. Non.
Ah, presque, ouais. Alors, je disais que j'avais oublié mon galure chez moi, parce que j'avais prévu une journée cosplay, voilà, Indiana Jones. Donc j'ai la chemise, j'ai oublié le chapeau bêtement. Il est prêt, hein. Et j'ai amené le fouet.
Oula, attention, qu'est-ce que tu... Ah, d'accord, le
Alors,
fouet.
Alors, je tiens à signaler que pendant les répétitions, la cascade que j'ai faite, j'ai manqué de me faire très mal. Et que le son est très ténu, mais il existe. Alors on va tenter de le faire, on va couper les retours, voilà. Et on va mettre tous les micros. Et alors Thomas est complètement sceptique, je le comprends.
Bah, qu'est-ce que c'est ça?
Attention, on baisse le son. Alors, il faudrait peut-être que tu décrives.
Oui, donc c'est un fouet de cuisine, hein, et pas le fouet pour dresser les fauves.
Non, je suis vraiment déjà assez maladroit comme ça. Alors on va essayer.
Coupe le son.
Ah, pas mal.
Comme quoi ah,
t'as pas réussi à le faire claquer, mais on a entendu un petit frémissement.
Faire claquer un fouet de cuisine, là, il faut un bras assez costaud, quoi.
Et donc, t'as failli te faire mal tout à l'heure en fouettant l'air avec ce fouet.
Oui, oui, les œufs battus voulaient pas se faire.
Ah. C'est ma branche.
C'est ma branche, je suis désolé, c'est une horreur. On aurait pu parler de la bande dessinée, adaptation officielle du film qui est sortie chez Delcourt. On aurait pu parler aussi de la série sur les aventures de Indiana Jones à côté
du jeune Indiana Jones.
Le jeune Indiana Jones qui sont sortis en bande dessinée avec aussi des aventures sur ce qui se passe entre les films. On n'a pas l'occasion, primo, assez bêtement par manque de temps, et ensuite parce que, tout simplement, il n'y a eu qu'un tome de sortie pour l'instant, donc on ne peut pas, franchement, pour l'instant, préjuger exactement de ce que cela va donner. Néanmoins, en point de vue, il y a quand même une chronique bande dessinée, et on va parler de feuilletons, là encore, puisque Indiana Jones, en fait, c'est ni plus ni moins que des adaptations de feuilletons, des feuilletons d'aventure radio et comics. Des strip comics des années 20, années 30. Sauf que, ben, on va parler de feuilletons, mais qui sont beaucoup plus vieux.
Enchaînement, d'accord.
Avec le D'Artagnan, journal d'un cadet de Nicolas Junker, qui est une adaptation, une énième, vous allez me dire, adaptation du personnage créé par
Roland Dumas.
Oui, je m'attendais que la face à Alexandre Dumas, espèce d'enfoiré, qui au départ était un feuilleton qui paraissait dans les journaux, c'est-à-dire dans les quotidiens, ben il y avait un feuilleton romancé et donc il y a eu les Trois Mousquetaires avec les Ferrets de la Reine, Milady et 20 ans après. Là, c'est une adaptation qui est faite par Nicolas Junker, qui n'est pas un inconnu puisqu'il a notamment dessiné Malais, dont on avait parlé récemment aussi chez Très étrange Milan, où sort ce D'Artagnan, journal d'un cadet. Ce que je savais pas, que je découvre dans le dossier de presse, c'est que en fait Nicolas Junker est originaire de Gascogne et il a fait de la compétition au fleuret. Assez rigolo. Donc
il avait le profil.
Voilà, c'est le roman de KPDP forcément par excellence. Mais est-ce que on pouvait passer un peu du côté épique et tout ça ? Là, c'est une adaptation qui est assez étonnante. Donc ça reprend exactement la trame du des deux premiers romans, Les Ferrets de la Reine. Milady, pas de 20 ans après pour l'instant. Sauf que ben D'Artagnan, donc, qui débarque de Gascogne dans Paris avec une lettre de recommandation de son père, etc., ben, est un jeune impétueux, timide avec les femmes. C'est pas un fin bretteur, c'est plutôt une grosse andouille en pote qui va un petit peu à l'assaut à tout va. La première chose qu'il va faire à Paris, c'est qu'il va s'attirer trois ennemis qui sont de très fines lames et qui finalement, par un retournement de situation, vont devenir ses meilleurs amis. Porthos, Athos et Aramis. Oui, je sais, j'ai inversé les deux premiers. Ce qui est, une fois qu'on a des amis, on se fait des ennemis. Et les ennemis en question, eh ben, c'est Milady et ensuite le cardinal de Richelieu. Et là,
ah ben ça, le voilà d'ailleurs.
Ça le fout pas des masses. Ça la fout pas des masses.
Non, c'est Rochefort en fait.
Voilà. Oui, en plus, il y a un Rochefort dans l'eau. Si vous vous souvenez forcément des romans, vous allez vraiment apprécier justement cette adaptation parce que les personnages ont été légèrement teintés. On enlève le côté romanesque, etc. On suit exactement leurs aventures et tout leur travers. On découvre vraiment, le côté vraiment tragique de des trois amis de D'Artagnan qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Dans le roman, c'est rapidement passé. Là, c'est vraiment lourdement posé et c'est très étonnant sur la manière dont c'est amené. Il y a aussi le côté, je veux dire, bon, il y a le côté épique, forcément, le côté histoire en costume d'époque. Bon, ok, ça le fait bien. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est le traitement de Nicolas Junker. D'abord, tout ce qui est flashback et tout ce qui est non vu directement par les personnages est traité au crayon. Il y a le côté, ben, D'Artagnan, on le voit en jeune ado qui complètement allumé, et des fois on le voit complètement barbu, hirsute, On le voit aussi incapable de savoir parler avec les femmes, ça y est dans le roman, mais aussi avec les yeux comme deux ronds de flanc, parce que des fois, il est dans quelque chose qui ne s'attend absolument pas des retournements de situation. Il y a aussi, par contre, ce qui est à signaler, c'est des dessins, je vais dire, d'organes génitaux femelles. Voilà, c'est dit, avec toute la poésie qui s'y est à ce moment-là. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on pourrait aisément recommander le bouquin à des collégiens et des lycéens, mais en fait non, à cause de ça, il vaudrait peut-être mieux pas. Quoique si, ça les fera marrer. Du coup, ça les passionnera.
Du coup, tiens du sport.
Voilà, je m'en doutais. Du coup, ça les passionnera. Après, il faut accepter un petit peu le trait assez nerveux. Mais c'est un très très beau, très gros bouquin, puisqu'il fait 272 pages, qui résume pas mal d'aspects du roman, mais en tout cas les transpose d'une manière plutôt efficace et qui est loin d'être inintéressante, même plutôt franchement bienvenue. En tout cas, moi j'ai passé vraiment un bon moment à le lire. Nicolas Junker a fait une adaptation de la prose des épisodes d'Alexandre Dumas d'une manière plutôt efficace. C'est plutôt bien amené et en cela, oui, je le recommande, il est très très bien. Donc voilà. D'Artagnan, journal d'un cadet de Nicolas Junker, c'est dans le label Très étrange chez Milan Éditions. Voilà, et pour des raisons très dépendantes de notre volonté, et ben du coup, on va lancer directement The Cinéma. Je tiens à signaler que la semaine dernière, on avait déménageur breton. Là, cette semaine, on a remonté la table 5 minutes avant l'antenne. Donc, on est un petit peu encore dans le stress. La rubrique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas. Oui, alors, on va en bouffer aujourd'hui.
Donc aujourd'hui nous parlons de La Poursuite du Diamant Vert. Non, c'est pas ça, c'est Indiana Jones.
Et les mines du roi Salomon.
Aussi, Alan Quaterman.
Oui, aussi.
Ah bah tiens, il y a Mutt qui arrive, tiens. Chialabé ouf, bonjour.
Et il a pas de bol, il est sur le micro qui est pas branché puisqu'on est en train de rebrancher la régie. Non, celui-là il est en radin.
Le vert.
Non. Le vas-y
big,
Thomas,
le
fais l'intro.
De l'âme.
Non, c'est non, JB. Il est pas là aujourd'hui donc.
Bonjour Duce.
Vas-y.
Ah ben attends pour la chronique d'Indiana Jones.
Oh,
toujours.
Le fouet. Allez.
Attention, attends, sketch qu'il a fait tout à l'heure, qu'il refait devant nous. Attends, ils ont pas vu.
J'ai rien entendu.
Le son est très ténu, mais il y est le son en fait. Hein. Étonnamment, il y est.
Ça passait assez mal à la radio. Hein.
Merci, enfoiré.
Je veux rien dire. Hein.
Bon, Thomas.
Alors, le papy qui fait la résistance, Harrison Ford est de retour. Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal.
Ouais.
Avec Harrison Ford, Kate Blanchett, Ray Winston, John Hurt, Shia LaBeouf.
À tes souhaits.
Nous sommes dans les années 60, le professeur Jones, archéologue, aventurier, docteur en archéo. Les années 50, c'est les années 50 ?
57.
C'est 57. Attends, je rectifie.
C'est 57.
Là. 57. Voilà.
Ah bon ? Alors, on a fessé Thomas, oui.
Oui, ben oui. Ben, j'ai pas eu le temps d'aller sur Allociné ce matin. Professeur, il a vieilli, hein, et il est capturé par la vermine communiste pour les aider à trouver le mystérieux crâne. Pour aller dans une cité mythique qui fait que voilà l'émission Cité d'or avec Esteban et tout et pour qui peut exaucer les souhaits du détenteur du fameux crâne, sauf que dans le film on apprend que le crâne il a une origine assez inattendue.
Bon, ils sont allés plus loin que Dieu, hein, c'était pour faire plus fort que le premier, c'est le principe d'une suite.
Voilà. Alors, dès le départ, on voit que Spielberg, il a pas abandonné sa franchise hommage à James Bond, hein, puisque là, c'est officiel, Indiana Jones est devenu agent secret entre-temps, hein, depuis qu'on l'avait quitté à la fin de la dernière croisade, puis il dit, oui, il a fait équipe avec son pote Mac, tout ça, qu'il avait, voilà. Et donc voilà, donc l'hommage a rejoint James Bond puisqu'il est devenu donc agent secret. Et voilà, donc il faut savoir que Spielberg, il nourrissait le rêve de faire des James Bond. Donc Lucas lui a apporté la franchise Indiana Jones sur un plateau en disant, tu sais, moi j'ai un chien, il s'appelle Indiana Jones, ce serait bien d'en faire un titre de film et tout.
Il s'appelle Indy le chien.
Enfin, Indiana tout court.
Ah, c'est de là le sketch de la fin du film du 3.
Voilà.
Ah d'accord.
C'était le chien de George Lucas qui s'appelait comme ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que à partir de là, on voit le rapprochement puisque le comportement de Jones envers la gente féminine, on sait d'où ça vient, tout ça. C'est assez curieux aujourd'hui, je m'entends assez fort dans le casque par rapport à d'habitude, je sais pas pourquoi t'as bougé le mixage ou
En fait, on a décablé recablé tout.
Ah, voilà, ça marche mieux en fait, voilà. Et donc cette fois, il ne lutte plus contre les nazis qui veulent asservir le monde sous la botte d'Hitler. Il lutte contre les communistes. Ah, on m'entend plus. Si, on m'entend maintenant. Il lutte contre les communistes qui veulent faire un grand tout, hein. S'ils veulent réunir tous les hommes à travers une espèce de crâne qui pourrait contrôler.
Comme les Bonariens, disons plutôt, hein, tout simplement.
Ah, totalitarisme.
Donc on reconnaît la patte de George Lucas, puisque le mec il se dit, bon, les gens, ils ont adulé la série d'origine, bon, j'ai fait une autre petite trilogie aussi, je sais comment ça marche, donc pour contenter les nouveaux fans et les anciens fans, on va leur pondre du clin d'œil à Tire l'arigot pendant tout le film. Histoire de vous montrer, regardez, comme on sait que vous êtes intelligent, on sait que vous avez de la mémoire, on va vous mettre plein de clin d'œil pour dire, haha, ils ont pensé à nous. Donc... au choix, on a donc la panoplie avec le chapeau et tout que le fils spirituel, on sait pas trop si c'est spirituel, si c'est biologique, tout ça dans le film.
Ah non, c'est strictement biologique. Hein,
oui, mais tu n'étais pas obligé de spoiler.
Ah, bon, JB, coupé.
Il a été coupé au montage. Donc, l'affiliation, voilà, donc puisque dans le... Au début de la dernière croisade, on voyait qu'il y a le jeune Indy hérité du chapeau d'un aventurier, puis il se basait sur le look de notre aventurier pour construire sa propre légende. On a failli avoir ça dans le 4 aussi, mais vous allez voir, c'est un petit retournement de situation assez rigolo. On a le rapport inversé entre le père et le fils, puisque c'était Sean Connery qui était le père, maintenant c'est Indy qui joue le rôle du papa, donc il a exactement les mêmes réactions que le vieux Henry Jones senior dans le précédent. Plus donc ça c'est assez rigolo puisqu'à un moment donné il dit si ton grand-père nous voyait ce serait assez il serait assez hilar. Donc évidemment la fameuse réplique de Sean Connery qui est reprise par Indy, c'est intolérable. Voilà, il y a plein de clins d'œil comme ça, la peur des serpents, on a la musique de l'Arche de l'Alliance au début du film, voilà. L'arche,
c'est sûr.
C'est l'arche.
Oui. On l'entrevoit.
On l'entrevoit, oui, tout à fait.
On a la poursuite de bagnole, tu me le soulignais justement à juste titre, qui est un clin d'œil justement à la poursuite de wagonnet dans le 2.
Oui.
Puisqu'on voit à peu près les mêmes péripéties. Le retour de Mario Ravenwood, la fameuse buveuse de vodka dans le premier épisode, qui revient. Et voilà, donc on a plein de... Bon, aussi, on a la chute en pneumatique aussi, à travers les cascades. Bon, ça c'est puissance 3 par rapport aux 2. Mais enfin, vous avez voilà, un festival de clins d'œil qui est assez réjouissant.
Il y a aussi des clins d'œil à d'autres films qui ne sont pas de la franchise. Par exemple, on a une scène, on va pas dire laquelle, qui rapporte à Crocodile Dundee.
Oui, tout à fait. Rapport à Crocodile Dundee.
C'est pas la seule, mais il y en a plein, ça fourmille. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus caché par rapport à d'autres types de films où là c'est un peu plus gros, quoi.
Star Wars.
Oui, en tout cas, là c'est flagrant.
On va vous caser absolument la planète des Wookiees à la fin et tout. Oh, Chewbacca, génial. oui, et puis on a aussi des clins d'œil à d'autres, un autre genre de cinéma qui a rien à voir avec les aventuriers, puisque Shia LaBeouf a le même look que Marlon Brando.
Sur les quais, tout ouais. À fait. On a bon des allusions. On peut pas dire d'où ça vient, mais là c'est flagrant. Bon, d'autres
pour la
films
fin.
De Spielberg.
Oui. Oui, oui. Bah, de toute façon, ça a un petit peu percé dans le buzz autour du film quand c'est sorti à Cannes. Donc, bon, si vous n'êtes absolument pas au courant de la finalité de la fin, bon, voilà.
Pas.
Ce n'est pas
une surprise. Moi, je pensais une série télé.
Vu la forme, c'est vraiment un de ces films.
Bon, on en reparlera, mais hors bien micro sûr. Cette fois-ci.
Ce qu'il y a de rigolo aussi, si on se penche un peu sur la thématique du film, c'est que bon, c'était de toute façon tout le monde le savait que Spielberg c'était un enfant de famille recomposée. La première partie de sa filmo, ça traitait justement de la famille justement qui était un peu disséminée, avec le Richard Dreyfuss dans Rencontre du troisième type qui abandonnait carrément sa famille pour aller rejoindre le vaisseau dont il était obsédé. On avait pas mal d'allusions comme ça, puisqu'il y avait jamais vraiment de famille typiquement heureuse dans ses premiers films, peut-être E.T. encore peut-être, alors que la deuxième partie de sa filmo, justement avec par exemple La Guerre des Mondes, on voit que Tom Cruise essaie de renouer avec des enfants puisqu'il est divorcé, etc. Et puis on voit vraiment le retour en fait. Spielberg maintenant privilégie et met la famille au centre de ses nouveaux longs métrages, ce qui n'est pas le cas avant, ce qui va donner lieu à une sorte de trahison, diront certains, sur le mythe d'Indiana Jones, avec justement cette conclusion dans le 4 dont on ne vous dira rien, mais qui peut être vécue effectivement comme une trahison ou une évolution du bonhomme Spielberg, c'est selon qu'on est indulgent ou non.
Excuse-moi, oui, JB, mais on a coupé préemptivement parce qu'on se doutait que t'allais spoiler.
Voilà, quand il meurt, découpé par son propre fouet, il y a Dark Maul qui arrive et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film finalement? Que c'est un excellent divertissement. On en a pour son argent au niveau des scènes d'action qui sont vraiment dantesques. Tu dis bon, alors on prend le meilleur des trois premiers, puis on en fait quelque chose à puissance 1000. Alors là, de ce côté-là, voilà, ça a coupé le souffle. Hein. Bon, de toute façon, avec les techniques d'aujourd'hui et puis avec quand on connaît le background et ce que ça fait les deux bonhommes, Lucas et Spielberg, on peut s'attendre à quand même du très lourd. Par contre, effectivement, on perd un petit peu le côté détaché de Jones et le côté, je fais de l'humour tout le temps.
C'est un petit peu le défaut du film où, effectivement, il y a beaucoup de bavardage. Et pour complémenter, on va mettre de la comédie. Et à force, c'est un peu pesant dans le tempo du film. Bon, voilà.
Voilà.
Bah, le meilleur moyen, c'est que la scène du flingue était loupée.
Oui, mais justement, la scène du flingue dans le 1, en fait, tu ne peux pas la retrouver dans le 4. Ce n'est pas du tout le même esprit et c'est ça qui est un peu dommage. Et bon, alors après on aura quelques incohérences dans le film, puisque on apprend que pour survivre à une explosion nucléaire il suffit de se mettre dans un frigo.
C'est de la fantasy. Et puis comme j'ai dit, c'est un hommage au strip comique d'aventure qui paraissait dans les années 20, années 30. Je vais dire, il y avait pire comme incohérence.
Oui, tu me diras aussi le postulat pour qu'il y ait une boule géante qui a attendu pendant 10 000 ans dans un temple pour foncer sur Indiana Jones, c'est pas crédible non plus.
Hein. Bon, ben heureusement, c'est un film, il y a à boire et à manger, il y a encore des gâteaux secs.
Après, on a des références à Tarzan aussi, assez inattendues. Alors ça, c'est quand même le truc qui passe le moins bien.
Ces références, on dit que c'est un peu loupé, là.
Voilà, il y a Tarzan, et puis il y a plein de petits singes qui font sur la méchante. Une méchante qui est incarnée parfaitement par une Cate Blanchett, vraiment magnifique. Méconnaissable et impressionnante.
Ah, Docteur
Ouais, sauf qu'elle est russe et qu'elle est super sexy quand même dans sa tenue assez moulante. Hein. Bon, même si là, si elle
est... Ah, c'est une méchante!
Et alors, justement?
juste pour les gens qui voudraient amener leurs enfants voir le film, il faut juste savoir qu'il y a une scène assez gore avec des fourmis carnassières, carnivores et tout ce que tu veux, super méchante, qui n'est pas sans rappeler...
Les marabuntas.
J'ai pas dit que c'était sanguinant, j'ai dit que c'était gore. Hein.
Ouais, mais justement, gore, ils ont quand même trouvé les moyens pour cacher.
Je veux dire que c'est quand même comparativement le 2 est quand même beaucoup 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 plus terrifiant.
Oui, tout à fait.
Oui. Oui, oui. Bon, après, c'est vrai qu'il faut pas être allergique aux fourmis qui s'engouffrent dans la bouche de quelqu'un, mais c'est vrai que, enfin, moi, ça m'a rappelé un peu les dérives un peu dark de Spielberg sur Le Monde Perdu, avec le fameux gars qui est en train de pisser, qui se fait attaquer par les mini-dinosaures. Voilà. Quelque chose à ajouter pour ceux qui ont vu Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal.
Tu le mettrais parmi les quatre, tu le mettrais en quelle position?
Bah, après les trois autres.
Après les trois autres. Et,
et la série télé Et la série télé?
Ouais, elle est largement oubliée, celle-là, hein, depuis le temps. Et
Deux baffes, JB.
Ah là 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 là.
T'as la collection ?
Non, mais enfin bon, j'ai suivi pas mal d'épisodes de cette série, hein, qui est très intéressante, avec Sean Patrick Flannery qui interprète tout à fait magistralement le rôle du jeune Indiana Jones.
Oui, puisque je crois que River Phoenix n'était plus disponible.
Non, il avait des problèmes
de visa, très pas.
De schedule, comme ils disent en anglais. Et c'est d'ailleurs cette série qui a été produite, coproduite par Spielberg et beaucoup d'autres. C'est dans cette série qu'on a commencé à faire des tests technique en ce qui concerne, tu sais, la multiplication numérique des personnages, quand il faut qu'il y ait plein de personnages en même temps et
figurants,
tout. 10 000 figurants, non, on peut pas, ça coûte trop cher et tout. Et justement, c'est dans cette série en particulier, d'autres après, mais qu'on a commencé vraiment à tester cette technique à l'occasion justement de la période où le jeune Indiana Jones se trouve confronté à la guerre de 14 avec Ronnie Cooter et tous les autres, donc pour faire plein de figurants les combattants de la guerre de 14, il a fallu inventer ce système, le développer, et c'est sur cette série justement qu'on a pu développer ce système et s'apercevoir que ça rendait quand même pas mal.
Merci LM alors. Quand même, bon, principe, hein.
Un petit mot sur le casting. Bon, Shia LaBeouf, après Transformers, il confirme que il est loin de mériter. Il est sympa, il y a de l'humour. Il est pas du tout jeune miné sans aucun charisme. Tu vois que le mec, il est attachant, quoi. Il s'en sort bien, à mon avis.
Oui, correct.
Personnellement, il est très très bon en loupard de l'époque. Oui. Surtout avec la bagarre entre Mods et Rocker, qui est absolument génialement mis en scène, et là-dessus il est hyper crédible.
Oui, tu sens à un moment donné qu'il va y avoir une comédie musicale, mais en fait non, il s'arrête juste à temps.
c'est pas mal du tout.
On a également Ray Winston en vieux comparse de Indiana Jones. Mac, ouais, voilà. Tout à fait. Ray Winston, qui avait prêté ses traits à un film en motion capture qu'on avait chroniqué ici, qui était méconnaissable. On sait pas pourquoi ils l'ont pris lui, puisque on retrouve rien de ses traits dans le film Beowulf. C'est lui qui prêtait ses traits à Beowulf. Et on a toujours l'excellent John Hurt, qui là en fait des tonnes, mais bon, c'est le personnage qui est complètement barré. Alors, c'est le vieux Huxley.
Oui,
okay. Oui, voilà. Donc on a du John Hurt chevelu, complètement givré dans le film. C'est encore un personnage en couleur. Tu sais, fait partie des éléments. Tu sais pas trop ce qu'ils foutent là. En même temps, ça a une cohérence puisque c'est lui le fil rouge du film. Mais c'est un personnage que t'aurais sûrement pas retrouvé dans les trois premiers, mais qui fait plaisir parce que c'est rigolo.
Enfin, c'est surtout parce que dans tous les films d'Indiana Jones, il a toujours le manuel comment passer les pièges, et là, il en a pas. C'est lui, c'est justement le vieux chevelu complètement qui connaît tous les trucs pour passer les différents obstacles.
Voilà.
Avant, t'avais quoi, le carnet du père, une carte perdue, les chroniques.
Oui, la carte, oui, effectivement, pour le temple maudit, voilà. Vous l'aurez compris, on ne va absolument pas vous parler de la fin, mais qui recueille tous les points négatifs du film à elle seule, hein. Les 10 dernières minutes, assez flagrant, personnage qui prend une décision assez étrange, résolution de l'énigme tout à fait à contre-courant des trois premiers. Bon, voilà, c'est une fin qui les accumule, mais bon, pour les plus indulgents, puisque je vois à ta tête que tu es très indulgent, JB, je pense que c'est assez bien passé pour toi.
Je recoupe plutôt son micro.
Merci. Dus, je peux t'emprunter ton micro au cas où.
Non, je trouve ça correct. Je me suis beaucoup plus ennuyé à pas mal d'autres moments du film, mais je trouve qu'il y avait quelques retournements plutôt bien, et paradoxalement pas trop manichéen. Les rapprochements entre McCain et Indy, par exemple. Je trouvais Indy ne fait aucun reproche d'ailleurs. Il lui dit ok, qu'il comprend, et puis qu'il laisse faire ce qu'il a à faire, quoi.
Ouais, c'était le même sort qu'il réserve à la traîtresse nazie dans le 3. Finalement, il veut la sauver. Voilà. Bon.
Ce qui ne dira rien. Ce que je trouve absolument étonnant, c'est donc ce Indiana Jones communiste dans l'âme.
Oui, alors tu m'as envoyé un lien cette semaine en anglais, donc je n'ai absolument rien compris.
Indiana Jones, Henry parle de se barrer à l'université de Leipzig. Du sport.
Oui, parce que
l'université de Leipzig, c'était bien en Allemagne de l'Est.
Ouais.
Oui, c'est parce que dans le film, à un moment donné, il est accusé de communiste, d'être communiste, et il est viré de son université. Voilà, donc et il essaie de se.
Et moi, je trouve que quand même l'erreur est quand même un petit peu grossière. Ça m'étonne que quand même ils aient pas fait gaffe. Et l'autre erreur aussi, enfin l'autre indice plus exactement, c'est quand il y a un étudiant qui l'interpelle dans la bibliothèque et qui lui dit oui donc dans tel bouquin etc. Non lisez plutôt un tel. Le un tel en question c'est effectivement c'est un spécialiste du terrain, c'est un archéologue de cette époque là, australien, qui a été mis au banc, je vais dire, de la profession à l'époque parce qu'il entretenait des relations très suivies avec ses amis soviétiques.
D'accord.
Ah, c'est très subtil à mon avis.
En
hein.
même temps, quand même, pendant tout le film, bon, il les aide un peu sous la contrainte, mais il fait tout ce qu'il peut pour s'en débarrasser.
Ah non, mais ça c'est pour le principe. C'est quand il y a un flingue en face de toi, quand même, merde.
Très bien. Mais dès qu'il en a pas, c'est cassos.
Voilà, vous l'aurez compris, ce bon divertissement d'Indiana Jones pour les puristes de chez puristes de geek. C'est peut-être. Vous aurez peut-être une déception de façon proportionnellement à l'attente, hein, c'est toujours pareil. Mais c'est loin d'être un ratage complet quand même, et c'est assez réussi.
C'est tout à fait, je l'avoue, très bien réussi. Effectivement, quand on compare ça avec d'autres franchises, que ce soit les Benjamin Gates, que ce soit les Tomb Raider, où là, c'est pas la peine.
Ah oui, bon là, tu t'engouffres dans une espèce de vortex complètement abyssal, là.
C'est un euphémisme.
Donc, on rappelle les références. Donc, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal de Steven Spielberg avec Harrison Ford, Kate Blanchett, Ren Winston, John Hurt et Shia LaBeouf qui est actuellement sur les écrans.
Et puis Zou.
Et Zou.
Et Zou.
Bon, c'est quand ça
Quota de chaussons françaises avec Joe Dassin.
Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Oh! 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 Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Wow. 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 Wow.
Après Joe Dassin, bien évidemment, il est midi 30.
Tension, stress, tension, stress, tension, stress. Vite, Subutex Mex. Subutex Mex, ça fait du bien par vos sapex. 200 euros les 500 grammes. Subutex Mex, ça décolle.
Et
même.
Du sport, il est midi 34. C'est à toi.
Ah, bah c'est cool, on va passer plein de musique, tu vas voir. On va se le faire tranquille.
Je rappelle que c'est mai 68 jusqu'à. Ouais. On est encore le 31.
Ouais. Moi, je vais encore parler un peu de cinéma. Alors, avec un grand réalisateur qui est mort cette semaine, Sidney Pollack, qui au départ n'était pas réalisateur, qui a commencé sa carrière en tant qu'acteur. Il a appris la comédie, puis il a été prof de comédie. Ouais, quand même, quoi. Et il s'est mis au cinéma, donc à la réalisation assez tard, on va dire, dans sa carrière, hein, en 65, avec un film qui était un film pour la télé au départ et qui est sorti en salle 30 minutes de sursis, puis Propriété interdite. Il a commencé à être hyper connu avec son film qui est assez monstrueux quand même, quoi. On achève bien les chevaux, hein, rappelez-vous quand même, hein, le concours de danse et tout, quoi. Non, ça vous dit rien? Bon, tant pis. Et surtout, parce qu'il a fait une grosse carrière cinématographique avec son pote qui a joué avec lui dans pour 5 ou 6 films, Robert
Redford.
Redford, bien sûr. Jeremy Johnson, il y a Out of Africa,
Trois jours du Condor,
et le.
Le
cavalier électrique. Hein, ça vous dit rien, ça, hein? Ah bah non, tant pis. Tant pis.
On n'a pas de
comme ça. Il a également fait Tutsi, hein, oui, qui a été un gros film, beaucoup de succès et tout. Out of Africa, c'est bien entendu son succès le plus remarquable. Bon, La Firme, on va passer un petit peu sous silence, mais bon, faut quand même le citer. Plus récemment, en 99, L'ombre d'un soupçon. Et L'interprète. Mais en tant qu'acteur, c'est un type qu'on a beaucoup vu dans des petits rôles au cinéma, mais surtout dans les séries. Hein. C'était un mec qui était un habitué des séries, comme ça, et qu'on a pu voir dans la série qui se passe à Los Angeles, dont je me rappelle pas, Entourage, voilà, où il joue son propre rôle. Bon, faut dire qu'Entourage, comme ça se passe dans le milieu hollywoodien, beaucoup de gens jouent leur propre rôle, hein, puisqu'on y voit apparaître James Cameron, enfin bon, en tant que réalisateur, et une flopée d'acteurs et d'actrices, Jessica Alba, enfin bon, toute la bande. Sidney Pollack, qui était en train de réaliser un documentaire qui s'appelle Recount, enfin qui devrait sortir peut-être avec l'aide d'un type qui va le finir, et qui raconte l'histoire de l'élection d'un certain président qui a été élu grâce à des voix qu'on ne sait pas si elles ont été falsifiées. Tout, rappelez-vous le recompte des voix en Floride, état dont le gouverneur est le frangin Jeb Bush, et donc c'était donc son dernier opus qu'il n'a pas pu achever, mais qui sera certainement achevé, qu'on verra certainement
sur Arte. On sait de quoi il est mort maintenant.
Ah, peut-être. Voilà, donc je dirais pas long live, mais rest in peace, quoi. Donc Sidney Pollack. Ensuite, je sais plus où j'en étais là. Attends, alors maintenant, vite fait, c'est paru hier et il vous le faut absolument, car dans une semaine, ça commence dans une semaine. Ah bah tu vas au match toi ce soir, je suppose.
Eh ben je sais pas encore.
Vu le prix des places, ils peuvent se brosser, tu vois, quoi, parce que 20€ minimum la place, tu vois, tu peux laisser tomber, quoi.
Ouais, mais
dans un quart de virage, même pas voir ce qui se passe de l'autre côté du terrain.
Ouais, mais tu vas voir Gomis en vrai, avant qu'il pète le feu et qu'il se célèbre.
Ouais,
en
petit comme ça, tu vois. Et puis bon,
manière Lego.
Comme j'ai déjà vu un match avec le Paraguay au stadium, quoi, le reste, je m'en tape. Il y aura certainement moins de Paraguayens ce coup-là qu'en 98 lors de la Coupe du Monde.
Bah oui, il n'y avait pas d'enjeu.
C'est ça qui est dommage. Bah là, ça, c'est dommage, parce que ça vaut le coup, c'est un public en or, ils sont géniaux, et puis ils viennent avec leur sap et tout, les chapeaux, en famille, c'est vraiment très très bien. Bon, alors, le SoFoot, avec la présentation de toutes les équipes et tout, avec les sous-titres toujours à la con, tu vois, Croatie du monde au Balkan, Turquie Ottoman Power, le Helvet Underground pour la Suisse, il nous l'avait déjà sorti un nombre incalculable de fois. Portugal, c'est coup franc-maçon, République tchèque, la bohème triste, alors qu'est-ce que t'as encore, Autriche, les valseuses, ensuite on a Allemagne, Deutschland super à l'aise, Pologne, Varsovie et mourir,
oh là là.
France, qualité Blu-ray, Roumanie Tsigane jamais. Alors celle-là, elle est très, c'est la meilleure, je trouve. Hein. Je trouve que c'est la meilleure. Orange Over pour les Pays-Bas. Squad Dramatique Italie. Tsar Academy pour la Russie. Oh, L'Hélène Segarra pour la Grèce. C'est pas mal aussi, on va dire. Et la graine et le mulet pour l'Espagne, Viking Size pour les Suédois, puis voilà quoi donc. Avec bon, alors c'est très concis, hein, c'est-à-dire qu'ils en ont pas fait des tonnes. Hein. Ça, deux pages pour chaque équipe dans la présentation des 16 équipes, plus un tableau en deux pages sur l'ensemble de la compétition et envoyer ses pesées. Naturellement, le reste du magazine est consacré à des interviews ou à des articles de fond sur des acteurs qui vont faire que l'Euro sera bien ou pas bien. Gattuso, hein, qui dit « Domenech raconte que des conneries ». Gianluigi Buffon, qui sera toujours le meilleur gardien du monde, et ça pour longtemps jusqu'à qu'il arrête. Balak, bien entendu. Donadoni, Hiddink. Et surtout, et alors là, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même, hein, parce que c'est le mec qui déclare carrément que à la FIFA, ce sont pratiquement tous des gens de la mafia, et il sait de quoi il parle, c'est Anthony La Paglia, interviewé...
Ah oui, parce qu'il est propriétaire d'un club de foot américain.
Il est propriétaire de deux clubs de foot, le FC Hollywood United, également copropriétaire du FC Sydney en Australie. Anthony La Paglia est australien, ses parents sont italiens, siciliens de père et calabrais de mère. Alors tu vois, il mélange un peu quoi. Donc c'est le mec qui dit ouais, je sais de quoi je parle et tout. De toute façon, c'est tous des enfoirés, tagada. Et c'est assez intéressant de toute façon quoi. Donc Anthony La Paglia, puis bon, l'interview qui fait 3 pages, hein, tu vois quoi. Et tu cherches la photo parce que bon, t'as... Bon, je te le prêterai après, t'en fais pas.
Ah, cool.
T'as la photo avec lui en goal et tout, puisqu'il joue goal, hein, dans son équipe, quoi. Parce que bon, bah, il raconte comment il est venu au foot et tout. C'est son frère aîné qui jouait ailier gauche et tout. Lui, il allait voir et tout. Puis tout ce qui l'intéressait, c'est de voir les goals. Et donc, il est allé voir un entraîneur et il dit, ouais, je voudrais jouer dans les goals et tout, quoi. Puis le mec, il lui dit au départ, donc il était tout jeune, hein, il lui dit, je te prendrai, je commencerai à t'entraîner quand tu, en sautant, t'arriveras à toucher la barre transversale. Donc pendant 6 mois, il a essayé, quoi. Et il a grandi un peu, quoi, pour arriver à toucher la barre transversale. Voilà, donc tout ça dans le SoFoot qui est sorti hier. Et bon, malgré le délai de parution du mensuel, il se peut que la composition des équipes indiquées dedans soit légèrement fausse, hein, parce qu'il y a eu des défections de dernière minute. Hein. Voilà, tu vois là, ouais, la FIFA c'est juste la FIFA c'est juste la mafia. Tiens, bon, ok. Mais tout le reste est vachement bien. Bon, disons, bon, c'est un personnage assez intéressant de toute façon. La Paglia, et moi je trouve que c'est un très bon acteur. Hein, on l'avait découvert dans Murder One.
Dans L'Antanage.
Excellent, très, très bien. Vraiment très très bien. Hein, vraiment rien à dire de toute façon. Alors, à la télé, l'événement, c'est de toute façon la semaine prochaine, une seule chose à regarder la semaine prochaine, le reste du temps vous pouvez éteindre la télé sans problème, c'est bien entendu la diffusion à la télé du film. Et putain, je sais, voilà ce que j'ai oublié, un morceau de Fred Poulet, putain. Oh pardon, excusez-moi. Donc Substitute, le film de Vikash Durasso et de Fred Poulet, est diffusé, c'est sa première diffusion à la télé, hein, c'est sur L'Équipe TV. Alors bon, hein, oui, c'est comme ça, bon bah tant pis, hein, L'Équipe TV donc, et ce sera mardi prochain à 19h30. Ouais, bon, ouais, d'accord, c'est comme ça, hein, c'est des horaires à la con. Avec, à partir de 19h, l'interview sur plateau de Fred et de Vikash, avant la diffusion donc de ce film, L'Aventure à l'intérieur des Bleus de Vikash Durasso lors de la Coupe du Monde 2006. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc à pas louper, hein, de toute façon. Bon, je dis ça aux gens qui sont pas fait chier à aller voir le film qui est passé en catimini dans un seul cinéma et encore selon le rythme de diffusion, hein, c'est-à-dire une fois, deux fois par jour. Je vais bien entendu parler de l'Utopia. Mais enfin, eux, ils ont quand même eu les couilles de le passer, quoi. Alors bon, merci quand même les gars, quoi. Enfin, eux, on a l'habitude de ce genre de petits trucs. À présent, il faut que tu me cales un morceau du disque Les Séries. Non, pas celui-là, l'autre, Les Séries Américaines et tout. Tu mets le numéro 41. Ouais, carrément. Il y en a plus encore des morceaux dessus, mais enfin bon, là, tu mettras le 41 parce que il y a quand même un événement. C'est un private joke que je ressors de temps en temps, n'est-ce pas, à cette antenne, dans cette même émission. Et là, bah, j'ai l'occasion de vous faire un topo pratiquement complet. Parce que Arte, demain soir, dans sa théma, eh bien, nous fait
une petite rétrospective et une petite commémoration de l'abolition de l'esclavage en France. C'était en...
Il y a une première en 1789.
Commémoration, donc ça veut dire chiffre rond, on continue.
En 58.
Un Alsacien très célèbre, célébré par tous les Antillais. Il y a une rue à son nom à Toulouse.
Même
si c'est une petite merde. Schœlcher, en 1848, ça fait 160 ans que l'esclavage est officiellement aboli en France. Et à cette occasion-là, eh bien Arte nous diffuse donc une théma consacrée à l'esclavage. Alors il faut savoir que les Français ont toujours eu un problème de mémoire par rapport à leur histoire passée. Ça se vérifie encore de nos jours. On a encore du mal à sortir quelques pans de notre histoire, surtout les pans les côtés obscurs, on va dire, hein, de l'histoire de France, hein, même les plus récents, on va dire. Alors que les Américains, paradoxalement, font vachement moins de complexes à ce sujet-là. Faut quand même rappeler que la guerre du Vietnam s'étant terminée en 1974, merci Richard Milhouse Nixon. Eh bien, en 79, on avait une palme d'or qui s'appelait Apocalypse Now et qui racontait un petit peu ce qui s'était passé. Donc 5 ans, hein, donc 5 ans entre la fin de la guerre et déjà une œuvre un petit peu polémique, on va dire, sur l'histoire américaine. Et je parle pas de tous les autres films qui sont sortis par la suite. On peut remonter plus loin comme ça dans l'histoire et citer plein d'autres exemples cinématographiques en ce qui concerne l'histoire de l'Amérique et justement l'histoire de l'Amérique telle qu'elle a été vue par les cinéastes, hein. On peut remonter même à Griffith, n'est-ce pas, c'est d'ailleurs la naissance d'une nation, pour savoir ce qui s'est passé. On va pas critiquer et dire oui sa vue est biaisée et tout quoi, mais en France on a toujours eu un super problème ça continue. Ce qui fait que pour illustrer cette théma et cette abolition de l'esclavage en France en 1848, eh bien on a choisi une série américaine pour illustrer donc ce propos. Mais attention, pas n'importe quelle série, il s'agit pas vraiment d'une série car en fait, il s'est agi plutôt de plusieurs mini-séries, les deux premières étant très proches dans le temps. Je veux bien entendu parler de Roots. Et là, tu peux mettre la musique. Eh ben tu le remets alors quoi. Je veux parler de Roots, bien entendu, Racines en français. Une mini-série qui a été diffusée par ABC en 1977, qui a d'ailleurs à cette époque-là fait un record d'audience absolument monstrueux. Il faut dire qu'à l'époque, les chaînes câblées, ça n'existait pas trop, hein, les moyens techniques étaient quand même moins importants. Donc, et d'ailleurs, je crois que les comptages n'étaient pas opérés sur les chaînes locales des différents États.
Sur certains marchés, effectivement.
Ouais, mais on comptait uniquement les taux d'audience par rapport aux gros networks, hein, ABC, NBC, CBS. Et là, pour la diffusion de cette mini-série Roots première époque, 71% d'audience quoi. Il y en a qui sont là du côté de TF1 et tout qui se disent non, c'est laisse tomber, Takis Kanilis et tout quoi, il fait une crise cardiaque directe et tout. Ouais, pas mal, mais c'est pas dénaturel. Non, mais ça se voit et ça tient tout seul. Alors en 1978, c'est diffusé par Antenne 2. Hein, donc tout de suite un an plus tard donc la première mini-série Roots Racine qui fait en fait 6 épisodes de 95 minutes, hein, 6 téléfilms on va dire, est tiré d'un roman d'Alex Haley, qui raconte en fait l'histoire sur 7 générations de la famille de la mère de l'écrivain Alex Haley. Alors la musique du premier générique, c'est Quincy Jones qu'on connaît, hein, qui a fait plein d'autres musiques et tout, hein, bon pote à Henri Salvador. Et par contre, c'est au niveau du casting que là, ça tue de la mort. Si je parle beaucoup de Kunta Kinte, qui est l'interprète principal, hein, et le héros de la première genèse, de la première mouture de Roots, c'est parce qu'il est interprété par quelqu'un qu'on a revu par la suite dans une autre série. Et bizarrement, alors c'est assez marrant quoi, parce que la deuxième époque de Roots s'appelle Roots 2 The Next Generation et
Star Trek.
Ouais Star Trek The Next Generation, dans laquelle on retrouve LeVar Burton qui était l'interprète principal de Kunta Kinte dans Roots. et donc qui a fait sa qu'on a revu à la télé, donc dans une série récurrente dans Star Trek The Next Generation. Les Barberton, donc, qui interprètent Kunta Kinte. Il y a également Cicely Tyson, qui joue le rôle de la mère de Kunta. Talmus Rasusalala, qui joue le rôle du... Lui, j'arriverai jamais à prononcer son nom correctement. Hein. Excuse-moi, mec. Hein. C'est le père de Kunta. Mais après, la distribution, laisse tomber, c'est à tomber sur le cul. Edward Asner, qu'on a vu dans une autre série, Lou Grant. Lorne Greene. Alors, Lorne Greene. Là, vous êtes très mauvais, les gars. Battlestar Galactica.
Oh merde.
Eh ouais, c'est lui Adama dans la version originale de Battlestar Galactica. Mais on l'a vu plus jeune encore. Bon, il avait déjà les cheveux blancs parce qu'il jouait déjà le rôle du papa. C'était dans Bonanza. Yes. Lou Gossett Jr., Vic Morrow, qui est décédé, on se le rappelle, à l'occasion du tournage du film La Quatrième Dimension, hein, accident d'hélicoptère. Caroline Jones, hein, Caroline Jones, ça vous dit rien. Otto Preminger, le film, l'adaptation Black du film, aïe, alors là, le trou qui tue, quoi, c'est pas grave, de toute façon, c'est des vieux films des années 50, vous en avez rien à foutre. Chuck Connors, ce n'est pas Mike, donc ce n'est pas Mannix. Richard Roundtree, Ben Vereen, Lloyd Bridges, Doug McClure, Trampas, dans Le Virginien, Brad Davis, alors, Midnight Express, les gars, Ian McShane, Deadwood, George Hamilton,
Thomas, tu te fais fesser là.
James Bond, merde. Alors donc, ça c'est la première époque. En fait, les six premiers épisodes, c'est-à-dire les six premiers téléfilms de cette première série Roots, ça va de... Ça raconte l'histoire donc de Kunta Kinte qui se fait arracher à ses parents en Gambie et emmené aux États-Unis, hein, le chemin traditionnel de l'esclavage jusqu'au sud des États-Unis, et ça on arrive jusqu'à la fin des années 1800. La deuxième époque, diffusée deux années plus tard par ABC en 79, mais diffusée seulement presque 8 ans plus tard par la 5 en 1987 pour les Français, fait un épisode de plus de 100 minutes, 7 épisodes de 100 minutes, Roots 2 de Next Generation. Et là, raconte l'histoire des descendants de Kunta Kinte, bien entendu, de 1882 jusqu'à 1970. Et donc, on assiste à ce qui se passe aux États-Unis, la ségrégation, Malcolm X, tout le bordel et tout, quoi. Alors là, c'est pareil. Là, on a plus les Barbara Burton et tout, mais on a George Stanford Brown, on a Lynn Moody, Debbie Morgan, Henry Fonda, Olivia de Havilland, Mark Singer, Irene Cara, Flashdance, James Earl Jones, qui joue le rôle de Alex Haley, l'écrivain, Debbie Allen, Robert Culp, Marlon Brando, Pam Grier, n'en jetez plus, ça ira, ça suffira. Ça, c'est la deuxième époque, donc, de Roots. Il y a une troisième époque de Roots qui a été tournée un petit peu plus récemment, hein, toujours par ABC, en 93, et qui raconte plutôt l'histoire du père, là, parce que bon, toute l'histoire des deux premières séries de Roots, en fait, raconte l'histoire du côté de la mère et de ceux qui l'ont précédé. Et là, dans Roots 3, Alex Haley's Queen, le sous-titre, ça raconte l'histoire du père d'Alex Haley. Et dans les rôles principaux, on a Halle Berry, Anne-Margaret, Tim Daly, Ossie Davis, regretté, rest in peace, Danny Glover, Martin Sheen. Non, j'étais plus, ça suffira. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, Arte vous diffuse donc demain soir, dans la Théma. Les deux premiers épisodes, parce que le découpage sur Arte va être complètement différent. Dans la première version, je vous rappelle, donc 6 épisodes ou 6 mini-films de 95 minutes. Et là, Arte a décidé de les couper en deux. Pourquoi ? Alors là, demain soir, on verra le premier épisode en entier, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2, selon la numérotation de Arte. Mais à partir de lundi prochain, tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h15 à 21h, vous aurez les autres épisodes de la première série Roots, donc à ne pas louper, si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment son pesant de cacahuète, c'est génial, c'est grandiose, c'est j'en dis pas plus, de toute façon, quoi, c'est vraiment ça qu'il faut regarder sur Arte la semaine prochaine. Passons à présent au tout venant avec la dernière, et alors là, s'il avait su, il aurait pas appelé cet épisode comme ça, la dernière affaire du commissaire Moulin, jeudi prochain sur TF1. Ouf, à 20h50. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait déjà d'autres épisodes tournés, qui sont en boîte toujours, mais qui ne seront pas diffusés parce que Yves Régnier producteur exécutif de la série, depuis le temps que tu parles, ça va, s'est fait jeter comme un malpropre par le responsable de programmation de TF1 qui a dit « Ouais, putain, c'est ringard tes trucs, tu fais plus assez de chiffres, donc dégage, connard, carrément, enfin bon, pas sous ces termes-là, mais enfin bon, on imagine que ça a dû être très chaud parce que Yves Régnier n'est vraiment pas tendre du tout. » À propos des exécutifs de TF1, si vous avez l'occasion de voir les interviews qu'ils donnent en ce moment, sabots sont pesants de cacahuètes.
Je ne sais pas si t'es au courant, mais il y a un Moujotte qui a dit qu'il était le dernier de la portée de chat et pas de chaton. Et qu'en ce moment, ils étaient en train de tous les noyer.
Ouais, non, mais bon.
Elle est pas mal.
Ouais, mais ça va, quoi. Ça va bien, quoi, de toute façon. Mais bon, il y a de bons règlements de compte en ce moment, quoi. Ça fait plaisir. Ancien TF1, tu vois. Villeneuve qui
aussi,
prend la tête de TF1, du PSG, Thierry Roland qui rentre dans l'art et tout. Il connaît rien au foot, c'est un gros con. Enfin bon, mais c'est Villeneuve qui l'a viré, de toute façon. Alors Villeneuve est déjà patron des sports. Moi, ça m'avait beaucoup interloqué, hein.
Mais moi, ça m'avait fait rire, moi.
Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Je veux dire, ok. Hein. C'est là qu'on se rend compte que le sport, c'est plus vraiment du sport, tu vois. C'est plus du business, quoi, quand même.
Vous parlez de foot, là, c'est pas la même chose.
Ok, bon, on a digressé un
ça,
peu, on s'arrête.
Ça, c'est du bis tout à l'heure, à partir de 13h15.
Alors, en tout venant, j'ai également ce soir sur New York Police Judiciaire. Alors bon, on va leur dire que ça s'appelait dans le temps New York District, tu vois, pour les saisons précédentes, ça s'appelait New York District. On a toujours connu cette série Law and Order, hein, la série traditionnelle et tout. Et là, à partir de la saison 15, ils ont dit non, on va appeler ça New York Police Judiciaire. Vous donnez un coup de boost, un coup de renouveau et tout. Alors que les acteurs n'ont pas tellement changé, quoi. Mais ça fait rien, bon, comme ça, c'est tranquille. Là, c'est la saison 17, donc c'est la dernière diffusée, la 18, et déjà en boîte 100. Commissaire inspecteur Green, puisque bon, il s'arrête à la fin de la saison 17, comme Sam Waterston, ce qui fait qu'à la saison 18, ben, on n'aura que des bleu-bites, c'est-à-dire que des gens qui n'étaient pas là au départ du tout, ou qui n'ont pas tenu un rôle récurrent durant les autres saisons, hein, à part les deux nanas qui sont arrivées lors de la saison 17, hein, voilà, c'est comme ça. Alors, le premier épisode, c'est ce soir, après le match de foot à 23h, on y revient, excuse, pour une minute de gloire, et le dernier épisode de la saison 17 qui s'appelle De père en fils, alors moins 12, avec Terry Garber et Chevy Chase, surtout, hein, donc Chevy Chase dans une série dramatique, ça peut, voilà, son pesant de cacahuète, hein. Et quand on sait que bon, les comiques généralement sont très bons acteurs, hein, Bill Murray, enfin moi je peux pas,
Eric et Ramsey,
non, je parle d'Eric, hein. Dans les rôles dramatiques généralement ils se démerdent assez bien, quoi, de toute façon, quoi. Supernatural ce soir sur M6, alors un seul épisode de la saison 2, hein, la série avec Jared Padalecki et Jensen Ackles. C'est l'épisode numéro 6 de la saison 2 qui s'appelle Sans issue, avec Samantha Ferris, Allo Natal, et Stephen Aberley qui joue le rôle du tueur en série. Et par contre, deux épisodes diffusés de la saison 1, et là bon, ils les diffusent dans l'ordre, hein, c'est-à-dire le numéro 11 et le numéro 12. Le numéro 11, c'est l'épouvantail avec Nikki Hicox, Tom Butler et William B. Davis, qui est bien sûr
Willow. Non, c'est je confonds avec
le gars qui s'adresse vers moi consterné.
Non, c'est l'homme à la cigarette.
Voilà, d'habitude mais, c'est toi qui le dis en premier, oui, à l'aise, facile.
Mais Willow, c'est Warwick Davis, c'est le même.
Ouais. Non.
Je le note, ok.
Ok. Et le deux. Et le deuxième.
Les ronds de flanc à la place des yeux, mais non.
Et le deuxième épisode, le 12 de la saison 1, Magie Noire avec Gillian Barder et Julie Benz, qui n'est pas la sœur de Daimler. Alors celle-là, je la fais chaque fois. Mais par contre, qu'on a pu voir dans la série Buffy et dans le spin-off, à savoir Angel, bien entendu. Ce soir sur Arte, dans l'excellente émission de Manu Katché, One Shot Note. Alors là, il a, je sais pas comment il a fait, mais enfin bon, il y a quand même du beau monde, hein. Il y a rien à dire. C'est à partir de 22h35. Richie Evans, le revenant. Rappelez-vous, le black qui joue de la gratte à Woodstock. Non, pas la guitare électrique, la guitare sèche.
Celui qui était à l'émission d'ouverture de Cannes.
Je sais pas, je regarde pas moi les trucs de Cannes, quoi.
Eh bien,
c'est si pas du cinéma à Cannes.
Si je me souviens bien, il y avait Richie Evans qui
dans
était
le micro.
Ok.
Je regarde droit. Dans
enfin bon,
on l'a Richie Evans invité par Sean Penn, qui nous a joué un morceau.
Ah bah ouais, cool. Bah tu vois, Sean Penn.
Ah bah qui t'a passé.
Bah c'est pour ça que tu vois, Manu Katché est sauté sur la cuisine. Ah, t'es en Europe, t'es en France. Attends, viens par là et tout. Il y a également Deus ce soir, Gonzalez. Et le disque que j'ai posé là, donc tu vas mettre un morceau carrément, quoi, parce que bon, Jamie Lidl,
parce que faut pas déconner.
Jamie Lidl, non, c'est ce soir, c'est sur One Shot Note. Jamie Lidl, génial écossais, hein, qui fait de la musique électronique, qui dévie un petit peu maintenant vers le funk déstructuré, on va dire, mais c'est toujours très très bien. Donc vas-y, passe-nous un petit peu.
C'est lequel?
Bah, celui que tu veux. Oh, alors là, voilà, tu peux tout mettre, il y a pas de problème. C'est donc ce soir dans l'émission de One Shot Note. Donc je rappelle un petit peu le concept pour les gens qui ne connaissent pas trop cette émission, hein. C'est d'abord, eh bien, chaque interprète ou chaque groupe va jouer un voire deux morceaux en live. Pas copier-coller, mais enfin bon, c'est bien pompé, hein, sur l'émission anglaise dont on parlait très souvent.
Late Night with Ah merde, j'ai oublié le nom de ce mec.
Voilà. Et à la fin, on essaye de réunir tout le monde et tout pour faire un buff gigantesque et tout. Ah putain, on pourrait faire ce morceau génial et tout. Ah ouais, c'est quel accord là et tout. Oui, mais là il faut passer en mineur. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, on se met en place. Et hop, et puis ils jouent tous à la fin. Puis ça donne des trucs des fois très très intéressants. C'est donc ce soir dans One Shot Note, Jamie Lidl qu'on écoute en ce moment en fond. Gonzalez, toi t'aimes bien Gonzalez, non?
Excellent.
Bon voilà.
Magnifique.
Deus. Et Richie
Très bon Evans, groupe là. Belge.
Et il y en a encore d'autres, ouais, hein, que j'ai pas noté parce que je connais pas du tout, quoi. Et à mon avis, ils ont mis les noms, mais je crois que c'est un groupe réuni, et puis c'est... alors bon, laisse tomber. Et, Thomas ne va pas louper One Shot Note parce que il voudra être devant Trax, qui suit One Shot Note, East Side Story, spécial Jonito. Tout de suite, là, à minuit 5, donc, ce soir. Après One Shot Note, quoi, donc sur Arte.
Bon, la soirée poker, c'est loupé, alors.
I used to scream and a whisper would do. All I wanted knows all over you. Now I'm in silence, do the talking. Now I'm in silence.
On n'a pas entendu le bip. Enfin, moi, j'ai pas entendu le bip.
Si, si. Ah, bon, au début du morceau, en fait.
Ah, bah, tu vois, ça veut dire que je suis bien concentré dans mon sujet, quand même. Ça fait plaisir. À présent, alors, c'est assez zarbe, hein, je veux te dire, parce que là, on nous dit dans ce programme télé que ça va être diffusé ce soir sur Teva. Alors, j'ai cherché dans le programme, y compris dans ce programme, c'est-à-dire au jour indiqué ce soir. Il n'y a pas. D'accord. Alors, je me suis dit, je vais prendre mon programme habituel. Samedi soir, Teva, non, il n'y a pas non plus. Par contre, ce sera diffusé mardi prochain, ça c'est marqué.
Donc c'est une erreur de date.
Il s'agit d'une série anglaise. Alors vous savez que j'adore les séries anglaises et que généralement ce sont toujours des trucs assez bien foutus, assez bien gaulés, avec de bons acteurs, de bonnes actrices. Et là, il s'agit d'une série qui s'appelle Journal intime d'une call girl. Ah ouais, cool, des femmes à fond et tout, quoi. Et ça va intéresser, et ça va surtout intéresser Xavier, parce que le rôle principal de cette call girl est interprété par l'ex de Doctor Who dans les deux premières saisons, Billy Piper.
Finesse.
À poil, tu vas l'avoir à poil.
Ah,
la série est très...
Non, couchez, ça va. On a compté. On l'accompagne.
Voilà, alors donc, c'est tiré du roman autobiographique hein, d'une pute de luxe londonienne. Ça... C'est du vécu, il n'y a pas de problème. Dans la série Anna, qui est interprétée par Billy Piper, a un pseudo de travail qui s'appelle Belle de Jour, référence à...
Belle de Jour.
De neuf dans Buñuel.
Ouais, t'as vu le tatou qu'elle s'est fait mettre dans le dos là? T'as pas vu le tatou qu'elle a maintenant, de neuf? La non. Mère de neuf, oh, c'est ridicule. Oh là 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 là. Pour parler de cette série, il faut savoir que très souvent dans la série, l'interprète Anna parle directement au téléspectateur, hein, donc pour
comme dans les films de cul.
Voilà, elle est très pro, hein, c'est-à-dire qu'elle utilise un déodorant masculin. Une pro ne laisse pas repartir ses clients avec une odeur de femme. Eh ouais, consciencieuse, honnête, travailleuse, elle ne boit pas, ne se drogue pas, et ne tombe surtout pas amoureuse. Bon, ça, s'en doutait un petit peu. Hein.
Don't fall in love.
Elle s'adresse donc directement aux téléspectateurs. Et c'est une série qui a fait beaucoup parler en Angleterre. Pourquoi ? Parce que bien certains y ont vu bien l'apologie et la glamourisation du métier de prostituée. Hein, donc ça la fout un petit peu mal. Hein. On sait qu'il y a quand même encore des culs serrés là-bas aussi, quoi. Enfin, peut-être plus qu'ici, quoi, d'ailleurs, quoi. Enfin bon, ici c'est plus des langues de pute et des hypocrites. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème dont on débattra dans une autre émission.
Oh, là-bas, même les nazis ont le droit de sortir avec des putes.
Bon, finalement, l'important, est-ce que Billy Piper, on la voit à poil ou non ?
La série est programmée très tard. Alors, ce sera mardi prochain, 23h35, et c'est quand même moins 16. Donc, on peut la voir, je pense, dans des postures un peu agréables pour les yeux et compromettantes dans certaines situations. Donc, c'est Journal intime d'une call girl, c'est sur Teva, donc à partir de mardi prochain, 23h35, avec Billy Piper dans le rôle principal. Hein. Ouais, Billy Piper, ouais, trop bon. Allez, une émission pour Xavier à présent avec Edgar P. Jacobs.
Oh !
Alors, ce n'est pas une marque de café.
Non, c'est l'auteur.
Blake ou Mortimer.
Bien,
sous-titré
Thomas.
Blake ou Mortimer. Mortimer ou Blake ?
Alors,
Edgar Pierre Jacobs a toujours dit qu'en fait, il était plus Ulrich. Et d'ailleurs, Ulrich lui ressemblait quand il était jeune.
Ah bah ouais, bah attends, c'est Ulrich, c'est quand même... c'est le piment un petit peu du...
Ah, c'est le méchant.
Ouais, ouais. C'est un documentaire de Francis Gillery hein, qui date quand même de 2005 et qui sera diffusé jeudi prochain à 21h45 sur France 5.
Où est la suite ?
Ouais. Alors on termine par vendredi prochain, c'est les deux derniers épisodes de Sur le fil. Alors là, moi je reste scotché quoi, de toute façon quoi. Il faut dire que dans les deux épisodes d'hier soir, j'ai quand même remarqué que au niveau du rythme, au niveau de l'interprétation de temps en temps, il y avait quelques petites imperfections, on va dire. Hein. C'est quand même français, on va dire. Ça doit être tourné avec pas trop de pognon et pas trop de temps non plus, quoi. Mais bon, il faut quand même reconnaître que l'interprétation de François Levental est absolument magistrale. Alors lui, il incarne carrément à la perfection, on peut dire, hein, son rôle de flic old school qui tape sur la gueule des suspects. Enfin bon... bon flic quoi, tu vois quoi, et qui va carrément plus loin on va dire hein, que les flics interprétés par Olivier Marchal dans Police District quoi. Là je pèse mes mots là carrément quoi, là je dis franco carrément quoi.
Ceci dit, j'ai vu Engrenage sur Canal et là je dois dire qu'ils sont allés encore plus loin hein.
ouais
c'est pas
attends,
mal
attends moi je trouve pas quoi, franchement je trouve pas, mais bon Sur le fil, donc c'est vendredi prochain, c'est les deux derniers épisodes de la saison 2 à partir de 20h55. La série est sous-titrée Le pire ennemi du flic, c'est le flic lui-même. Et alors, qu'est-ce que tu crois ? à présent, on termine. Par une sélection de films à voir à la télé la semaine prochaine, des films avec des grosses bêtes dedans. Et Jean-Claude Van Damme. Parce que JCBD sort la semaine prochaine. Hein.
C'est vrai ? Oui, normal.
Ok. Bah, c'est normal, merde. Ça commence ce soir sur W9 à 23h40. Mégalodon. L'attaque des requins tueurs 2. De David Morse. David Morse qui avait fait.
Ah bah oui. Je sais pas.
Bah si, avec Marc Dissalé.
Photo obsession.
Ben non. On parle de Jean-Claude Van Damme.
Ah, alors un film
avec Van Damme. Kickboxer.
Ah, il y a Marc Dissalé dedans.
Marc Dissalé, David Worth, il est co-réalisé. Ah là là, aïe.
Ah bah oui, attends, il faut que je révise mon Jean-Claude
Van Damme. Ouais. Donc, Mégalodon ce soir, sur W9, avec John Barrowman, Jenny McShane et Ryan Cutrona. Ou alors ce soir également sur NT1 à 22h30, Crocodile 2, moins 12 également, de Gary Jones en 2001 avec Eddie Lenhart et Chuck Walczak. Là je te parle de films que t'as jamais vu de ta vie, c'est sûr quoi. Et par contre ce soir il y a quand même la soirée sur Disney Cinemagic, un spécial Norman Tokar, il revient.
Oh non.
Avec tout d'abord l'inénarrable et toujours excellent
Le chat dans l'espace.
Le chat qui vient de l'espace. Et ouais, de 78. Avec Ken Berry, Sandy Duncan et Roddy McDowall. Si, alors, ouais, c'est vraiment un film très très bien, parce que bon, c'est l'histoire d'une soucoupe volante qui se casse la gueule sur Terre. Alors bon, c'est des films Disney, hein, bien sûr. Et l'extraterrestre à l'intérieur, hein, qui peut pas retourner parce que bon, bah, sa soucoupe volante, elle est naze. Et il s'incarne dans un chat. Et ce chat, pour avoir des pouvoirs, eh bien,
c'est parce qu'à mon avis, il a vu les pubs de Nevers, hein,
Ouais, le chat porte un collier donc qui s'allume quand le chat développe certains pouvoirs, hein, comme celui de figer l'action, enfin des trucs comme ça et tout. Bon, à l'époque, les effets spéciaux étaient un peu ledge, quoi, donc voilà. Mais bon, c'est toujours très rigolo. Suivi d'une réalisation de Norman Tokar à 22h05, que moi j'ai vu quand j'étais petit et tout, quoi. 4 bassets pour un Danois. Avec Dean Jones et Suzanne Pleshette. Alors d'abord un film avec des chats, ensuite un film avec des chiens. C'est sur Disney Cinemagic ce soir. Ouais, désolé, un Danois, c'est une grosse bête. Hein. Ouais. Quand même. Alors lundi, sur W9, on a... Et là, ils sont trop cons, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. L'attaque des requins tueurs de David Worth.
Ah, oui.
Et Mégalodon, donc c'est l'attaque des requins tueurs 2. D'accord. Puisque l'attaque des requins tueurs, il date de 2000, deux ans avant Mégalodon, l'attaque des requins tueurs 2. Et là, les interprètes sont pas les mêmes du tout. Il y a Nikita Hauger, qui est pas mal, hein, franchement, c'est une blonde. Et Thorsten Kay. Un film de Jean-Claude Van Damme, c'est lundi sur TMC, l'excellent Chasse à l'homme de John Woo à 22h25. Ouais. Ou alors sur Sci-Fi à 20h45. Lundi prochain, vous avez également Dragon Fighter de Philippe Roth, Philippe G. Roth. Jay en anglais.
Donc
en 2003,
c'est pas John Beirut.
Avec Dean Cain dans le rôle principal. Oui.
Clark Kent
dans la série Lois and Clark. Et également Christine Byers. Mardi, on a sur W9. Alors là, ils nous l'ont diffusé, rediffusé sur pratiquement toutes les chaînes du câble et du satellite. Mais bon, ça se laisse regarder quand même, enfin du moins la première partie, parce que là ils vous diffusent les deux parties, c'est-à-dire toute la soirée, de 20h45 à 23h45, hein, deux fois 1h30 pratiquement. C'est Créature de Stuart Gillard en 98 avec l'inénarrable Craig T. Nelson, avec Kim Cattrall. Ah ouais, Sex and the City, non, il n'y a pas que ça, hein. Il fallait manger aussi à l'époque, avec l'excellent Giancarlo Esposito. Bah ouais, il faut manger aussi, mais pourtant lui, il est très bon acteur, hein, vraiment, hein, excellent, hein. Il n'y a qu'à voir dans Bob Roberts par exemple, ou dans toutes les séries qu'il a faites, c'est excellent. Colm Feore et Michael Reilly Burke dans Créature, donc mardi prochain sur W9. Mercredi sur RTL9 à 22h25, Mosquito Man de Tibor Takács en 2005, avec Corinne Nemec. Ouais, ça vaut le coup quand même, Corinne Nemec.
Parker Lewis.
Ah ouais, exactement, Parker Lewis. Là, tu vois, là,
j'ai réveillé,
il est en pleine forme et tout, quoi. C'est bon, il est réveillé, tranquille. Jeudi, bien sûr, spécial JCBD sur 13ème rue, avec à 20h45, en version remasterisée. Alors, j'aime bien, ils font un potin pas possible et tout. Alors bon, sauf qu'il y a moins de grains sur l'image et tout. Enfin, tu parles, c'est du pipeau. De toute façon, on s'en fout. Hein. Universal Soldier de Roland Emmerich. Ouais, ouais, c'est des Roland Emmerich avec Dolph.
Dolph.
Et Profiler.
Ali Walker.
Ali Walker, bien sûr. À 22h30, l'interview de JCVD à l'occasion de la sortie du film, Jean-Claude Van Damme. Donc,
est-ce qu'il va être sous coque ou non?
Non, jamais.
En fait, ça fait 15 ans qu'il se préparait pour ce film.
Et oui. Et à 22h40, toujours sur 13ème rue, jeudi prochain, Ultime Menace de Simon Fellows. Alors, je vous en ai déjà parlé et tout, le film, il date de 2006, hein, avec Julie Cox et William Tapley. Mais enfin, bon, c'est vraiment si vous avez la gueule de Jean-Claude Van Damme. Hein, parce qu'après, bon, 10 minutes, quoi, tu regardes 10 minutes, puis c'est bon, quoi. C'est pas sorti en salle, hein, c'est un DTV, comme ils disent. Hein. Et à 0h10, et c'est là peut-être le plus intéressant de la soirée, hein, parce que il s'agit de deux courts-métrages de Mabrouk El-Meshri, qui est le réalisateur de JCVD. Donc, le premier s'appelle Génération Cutter. Ça se laisse tomber, c'est mon téléphone qui sonne que j'ai pas éteint. Et, Génération Cutter, donc, et Concours de circonstances, deux courts-métrages de Mabrouk El-Meshri, réalisateur de JCVD. C'est sur 13ème rue, jeudi prochain.
Il faudrait qu'il rediffuse Virgile, qui était l'excellent premier long métrage de Mabrouk El-Meshri avec Jalil Lesper et Léa Drucker, Philippe Naon, Jean-Pierre Cassel.
C'est 13ème rue, il faut pas en demander trop. D'accord. Sinon, jeudi prochain sur Sci-Fi, il y a également à 20h45 la 8ème plaie de Jan Gilmour avec Dan Cortez. Ah ouais, Julie Benz, elle est encore là. Eh ouais, elle est encore là. Avec l'énorme. Alors là, l'excellent Jeff Fahey, très bon acteur, et avec David Kiss. Alors, petit quiz, David Kiss et Kiss David, qui est le black et qui est le blanc?
Alors Kiss David, c'est le black.
Yes, bravo, il a bien retenu ses leçons. Et David Kiss, donc, c'est le blanc, forcément. On termine vendredi prochain sur TF6 à 23h15, multi-rediffusé, et même... filé en DVD avec un Man Movie d'il y a je sais pas combien d'années, Pterodactyl de Mark Lester avec Coolio et Cameron Dado surtout. Et Cameron surtout. Pterodactyl, je vois vendredi prochain sur TF6 à 23h15. On a raison de passer tard d'ailleurs celui-là. Pas parce que c'est trash, mais c'est à peine trash, tu vois.
Perso, j'adore ce type de film.
Ah oui, non, mais bon, c'est bien pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, hein, et puis il n'y a pas de problème, il y a un public, hein, donc profitez-en. Sinon, sachez, j'ai pas noté les horaires, mais c'est multidiffusé, mais c'est complètement hors de propos, mais ça vaut quand même le coup pour les gens qui ont jamais vu ce film. Et il est trop rarement diffusé à la télévision, c'est sur Ciné Cinéma Star toute la semaine prochaine en multidiffusion, consultez vos programmes. Il s'agit du Hamburger Film Sandwich de John Landis, pas seulement de lui, hein. En fait c'est scénario écrit par Zaz, hein, Zucker Abrahams, bien avant Y a-t-il un pilote dans l'avion, hein, puisque c'est un film qui date de 73, qui raconte en fait, c'est une suite de sketchs, mais qui en fait se veut la parodie de ce que peut être une journée de télé sur une chaîne américaine. Et ça vaut vraiment, vraiment son pesant de cacahuètes.
Quand tu vois les nuls, tu vois que les nuls n'ont rien trouvé.
Ah oui, non, mais ils avaient vu le film. Eux, d'ailleurs, c'est eux qui ont eu, qui ont fait passer le film sur Canal+ il y a très longtemps, dans les années 80, quand Canal était encore une chaîne valable. Dans ce film, on y retrouve d'ailleurs Richard Belzer, hein, l'inspecteur dans New York Unité Spéciale, Munch, qui joue un rôle tiré des Freak Brothers. Si, c'est pas des conneries, hein, qui interprète l'un des deux Freak Brothers, quoi. On a également une petite scénette de Kung Fu qui est mémorable. J'en passe et des meilleurs. Enfin bon, vraiment, Hamburger Film Sandwich sur Ciné Cinéma Star la semaine prochaine. Mais consultez le programme parce que c'est multidiffusé, donc il y a différents horaires.
Et c'est tout pour aujourd'hui.
Hein. Ouais, ça ira, non? Et bon, je répète, hein, donc Substitute mardi prochain sur l'équipe TV à partir de 19h30. 19h sur le plateau avec Vicage Dorasso et Fred Poulet. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié le disque pour la première heure et tout, que j'ai pas de musique et tout, quoi, que je voulais prendre un Fred Poulet puis que j'ai complètement oublié, quoi. Mais c'est pas grave.
Ça tombe bien, moi j'ai loupé.
Ça ne regarde pas comme moi.
J'ai oublié mon chapeau tout à l'heure. Et oui, parce que Thomas, peux-tu faire un résumé pour ceux qui ont loupé l'émission numéro 159 du Supplément Week-end?
Déjà 159. Eh bien,
si j'avais su, je vous aurais fait les 160e de l'abolition de l'esclavage la semaine prochaine. Ça aurait fait 160.
Hein. Ah.
Ah, dommage.
Alors aujourd'hui, JB était à nouveau parmi nous. Nous avons eu Xavier avec un fouet de cuisine mais sans chapeau, du D'Artagnan et des foufounes, de l'aventurier communiste. Tiens, des jeux de mots bidons par les cahiers du football, dessins pas naturels, la nécro de Ciné Polak, du Roots, il fut question aussi du PSG et de Commissaire Moulin, un Willow qui fume, de la Call Girl à poil pour les geeks, du Requiem Tueur, du Crocodile, du Retour du Chat venant de l'espace par un tocard, des Bassets, du Jean-Claude chassé en et soldats à poil, de la créature et du Ptérodactyle avec Julio.
Alors voilà, alors moi j'éteins mon téléphone et Thomas et du sport, eux ils ont rien à foutre. Et vous écoutez ce que je dis quand téléphone éteint?
Mais je croyais l'avoir éteint moi, c'est bizarre. Hein.
Mais bien sûr! Donc si vous avez loupé tout ça, bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur le site internet de l'émission supplémentweekend.tk, sans accent ni tiré, ou sinon vous tapez directement supplémentweekend dans Google, vous tombez automatiquement sur nous. C'est ça qui est génial. Et enfin bon, ceci dit, donc la suite des programmes avec à 15h, Zama Farid c'est du reggae, 17h, découverte musicale, avec ça c'est de la bonne viande, 18h, Big Bang, 19h, le retour de l'électro avec Happy Roar, 20h, Last Hétéro Experience, 21h30, 9 Love, See You Two Step, et à 23h, le potager. Et avant que je rende la main à du sport, sachez que demain, de 12h à 19h, la radio sera en direct à la place du Capitole pour le Forum des Langues. Ciao, bye bye, salut à tous, à plus. Ciao.